Patrick Boucheron, vendredi 17 janvier au Théâtre National de Bretagne à Rennes, vous avez honoré le troisième rendez-vous d'un cycle de sept rencontres qui se dérouleront toute la saison dans les murs du théâtre à l'aune de ce thème, rencontrer l'histoire, la forme, cette fois encore différée des deux précédentes. Vous n'étiez pas sur scène sauf au début pour introduire la représentation, on va appeler ça comme ça. Et vous avez laissé ensuite place à deux acteurs, Marc City et Serge Renko. C'est à eux qu'est donc revenue la responsabilité de dire, prendre date, un texte conçu par vous et Mathieu Riboulet, adapté pour le théâtre par Mathieu Riboulet, et écrit après les attentats de janvier 2015 contre les journalistes de Charlie Hebdo, puis à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Chacun de vous a pris dans l'écriture une date en charge. On ignore qui a fait quoi, mais le déroulé de ces dates est implacable, 6, 7, 8, 9, 11 et 14 janvier 2015, comme si au fond, la seule chose dont nous soyons certains, c'est de ces dates. Le texte, malgré vos vœux que vous avez formulés en préambule, n'est pas du temps passé, il convoque un présent toujours aussi présent, un présent trop présent. Façon de dire que ça ne passe pas, Charlie, ça ne passe pas. Il y a des textes qui sont des marqueurs d'une époque, d'une émotion, d'une souffrance. La vôtre, votre souffrance qui est aussi la nôtre, a été redoublée par la mort en 2015 de Mathieu Riboulet, un deuil, une entaille, dites-vous, qui m'a renvoyé en boomerang vers notre conversation de novembre dernier à une question que je ne crois pas vous avoir posée et que je voulais vous poser. Cette question, c'était celle de Ruth Boeuf. Que sont mes amis devenus? Et je me suis demandé si vous étiez historien aussi pour répondre à cette question.
Oui, sans doute. Je ne me souviens, je peinerai justement puisqu'il s'agit de prendre date. Je ne me souviens plus du moment où j'ai entendu la première fois que sont mes amis devenus, mais évidemment je sais que ce n'était pas directement par Ruth Boeuf, mais indirectement par la chanson française. Et au fond, je suis né en 65, il y avait cette idée que l'histoire, c'était ça. Ça devait conjurer cette tristesse, cette mélancolie, le temps qui passe, qui nous éloigne de nos amis. Je suis vraiment révolté contre cette idée quand j'étais jeune. C'était le moment où on nous faisait lire les essais d'Ego Histoire, dirigés par Pierre Nora, où des historiens et une historienne, Michel Perrault, disaient au fait de la consécration ce qui les avait fait historiennes et historiens. Et la mort planait sur ce livre, et en particulier Pierre Chaunu, alors il est un peu oublié aujourd'hui, mais c'était quand même une grande figure de l'école des annales, très réactionnaire aussi, hein, moi, au moment où, voilà, où je le connais, c'est le moment dans la seconde moitié des années 80, où je le connais, je ne l'ai jamais vu, mais enfin, sinon en cours, mais voilà, une grande figure voilà, du catholicisme réactionnaire, et son texte s'appelle, je cite de mémoire, « Le fils de la mort, de la morte ». Il parle effectivement de ce grand thème de la visite au cimetière. Et il dit bah, « c'est ça un historien voilà. ». Ça, c'est vieux comme Maurras, voilà, c'est-à-dire il faut, pour faire une nation, de l'histoire et des cimetières. Et je me suis vraiment révolté contre ça, contre les cimetières aussi. Je n'y vais jamais, sauf pour enterrer des amis, mais j'y vais jamais plus après, même pour ma famille. C'est pas bien, je le sais. Mais il y a de ça, oui. Oui, il y a de ça. Mathieu Riboulet est mort le 5 février. Il y a deux ans, pas en 2015, en 2018. C'est ça, hein, oui, c'est ça, 5 février 2018. Et ce qu'on avait, et 2015, et effectivement, on l'a compris plus tard, enfin, je l'ai su en décembre, le moment où sa maladie s'est déclarée, il en parle effectivement dans son livre posthume qui vient de sortir, Les Portes de Thèbes, qui poursuit l'histoire jusqu'au 13 novembre, en somme. Et oui, il y a de ça, bien sûr. On a, dans le texte, on dit qu'on n'écrit pas autre chose que des tombeaux. peut-être que ma manière de faire et de poétiser, voilà, cette idée de tombeau, moi qui ne vais jamais sur les tombes, en fait.
En écoutant prendre date, date est écrit au pluriel, je le signale, je pensais, et ça ne vous étonnera pas, au poème de Mallarmé, Note pour un tombeau d'Anatole, dont le titre peut varier. Les mots posés par vous et Mathieu Riboulet sur la tragédie de janvier 2015 sont-ils justement les mots qui tentent de donner une sépulture aux morts? Auquel cas, le livre pourrait s'appeler ou se sous-titrer Note pour un tombeau de la France.
Oui, souvent, au moment où, nous sommes dans ce livre-là, je pense qu'il y est beaucoup plus préparé que moi. Il y est beaucoup plus préparé que moi parce que, au fond, nous sommes connus en 2008, à un moment, je l'ai raconté, où nous rentrons tous les deux dans le catalogue Verdier, Gérard Bobillet, dit Bob, l'un des fondateurs des éditions Verdier, qui est mort 2 ans plus tard, nous a présenté l'un à l'autre, Mathieu, Patrick, vous êtes jumeaux en jaune. Ça veut dire que vous allez sortir en même temps, dans le même office, comme on dit dans le monde de l'édition. C'est-à-dire vos deux livres, L'amant des morts, pour lui, le Léonard et Machiavel, pour moi, étaient jumeaux. C'est tout à fait singulier quand on y pense, parce que le passage de Mathieu Riboulet dans le catalogue Verdier est au fond son passage à l'histoire. Voilà, c'est-à-dire qu'il va risquer quelque chose de sa littérature qui existait déjà, évidemment, mais qui était publiée ailleurs, une sorte de, toujours avec le même phrasé, ample, somptueux. Ça, c'était le mot de Bob, somptueux, faire de son histoire la caisse de résonance de l'histoire tout court. Et c'est lui qui, à partir, au fond, de l'amant des morts, creuse ce thème dont on avait parlé, au fond, la fois dernière, avec contretemps, c'est-à-dire que l'histoire, on l'a sur le dos, qu'on la porte dans nos os, qu'elle teinte dans nos corps, que c'est pas quelque chose d'extérieur, que c'est une affaire de corps. Bon, voilà. Puis moi, plus modestement, effectivement, la publication de ce livre, Léonard et Machiavel, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est le passage d'un historien dans au moins la compagnie des écrivains. Je ne veux pas dire la littérature, j'y prétends pas, mais enfin, au moins, l'amitié des écrivains. Voilà, si on considère que Verdier est le nom collectif d'une conjuration d'amitié. Et puis, un nom de lieu aussi. Verdier est un hameau de la Grâce, où Mathieu et Serge et nous tous nous retrouvions. Voilà. Lui, il est très préparé, au fond, à écrire Prendre date. Je dirais que c'est plus immédiatement la suite de son œuvre. Pour une raison simple, c'est qu'il s'agira, dans ce livre, de parler de l'histoire de France, ce que je n'avais jamais fait. Et au moment où lancé avec lui dans cette aventure qui est proprement l'aventure de la phrase, c'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie que je m'abandonne à la phrase, qui est la chose courante chez les écrivains, c'est-à-dire quand je lui dis comment on fait, il me dit on pense à deux ou trois dispositifs, on va dire, on en reparlera peut-être, on choisit le plus simple. Il me donne les titres, les 6 titres. C'est lui qui donne les titres. Ça, c'est le gabarit, c'est la contrainte. Puis on y va. Et moi, commencer à écrire en n'ayant aucune idée, au fond, de la façon dont ça va se passer, c'est vraiment une nouveauté. Et en plus, c'est écrire sur, comme vous dites, peut-être un tombeau de la France, de l'idée qu'on s'en fait. Il y avait cette collection, il y a toujours cette collection, les 30 journées qui ont fait la France, ou les journées qui ont fait la France maintenant, toujours chez Gallimard, là, il y avait l'idée qu'on allait chroniquer des journées qui auraient pu la défaire.
Est-ce que, en janvier, pendant les attentats et à cause des attentats, quelque chose effectivement de fondamental qui fait la France depuis des siècles a sombré corps et biens, qui serait l'incarnation? Il y a cette scène qui est rappelée, ou par vous ou par lui, de François Hollande, alors président de la République, qui réussit à créer cette cohésion des chefs d'État qui viennent défiler dans les rues de Paris pendant cette journée de manifestation titrée « Je suis Charlie ». On s'interroge parce que François Hollande ne se représentera pas à l'élection présidentielle, et on voit bien que depuis il y a un problème d'incarnation de la fonction présidentielle très clair. Est-ce qu'il incarnait à ce moment-là juste un instant, ou est-ce que ce jour-là, l'incarnation a disparu corps et âme avec les attentats? Et donc, quelque chose de l'unité, quelque chose de la structure, de l'ossature de la France.
Alors ça, on le saura un peu plus tard. Je ne le sais pas encore. Ce qu'on voyait au moment où on écrivait, Mathieu et moi, c'est-à-dire en mars, disons, oui, c'est ça, deux, trois mois après les événements, eh bien, c'était que, au fond, l'exécutif s'était tenu, que la parole avait été tenue, et qu'à chaque fois que les uns et les autres prenaient la parole, ce qu'on attendait d'entendre Christiane Taubira, mais ce dont on n'attendait pas grand-chose, Manuel Valls, voilà, je me souviens de mon impression. Après, j'en fais pas système. Je ne dis pas que c'était voilà une illusion ou autre chose, mais on avait l'impression que ça se tenait, c'est-à-dire qu'ils étaient. Alors on dit dans le livre, je sais plus qui le dit, de lui ou moi, sincèrement, qu'ils se portent à la hauteur de la situation, et donc ça les grandit puisque la situation est haute. Voilà. Elle est terriblement haute, mais elle est haute. Cette impression de masse, effectivement, que fait le défilé, qui n'est pas une manifestation du 11 janvier, c'est que ce qui les tient, c'est la foule. C'est-à-dire que ça se tenait parce qu'on les tenait. Ils étaient tenus. La parole politique était tenue. Et puis, à la fin du texte, il y a déjà l'idée qui, là, pour le coup, c'est plutôt... Enfin, n'a pas été totalement démenti par la suite, que dès qu'on a le dos tourné, dès qu'on pense à autre chose, dès qu'on revient à nos affaires, dès qu'on s'affaire à nos vies, dès qu'on les laisse faire, dès qu'on ne les tient plus d'assez près, eh ben tout recommence. C'est-à-dire que effectivement tout se délite. Et ce moment-là, enfin voilà, ce qui est certain, c'est que il y avait un moment, mais que personne ne pouvait croire sérieusement, sinon les slogans publicitaires de quelques journalistes, que c'était un moment fondateur, qu'il y aurait un esprit du 11 janvier qui allait, d'une certaine manière, tout changer. Non, d'une certaine manière, ensuite, après, ben, tout le monde revient, je dirais, à la hauteur de ses engagements, de ses ambitions et peut-être de son talent. Maintenant, il y a cette question, qui est une question, effectivement, qui, moi, m'intéresse, en réalité, m'obsède comme historien du pouvoir, qui est, effectivement, vous avez raison, celui de l'incarnation. Il y a même dans le texte, à un moment, une sorte de gros mot, théologie politique. Quelqu'un dit, là c'est plutôt moi, eh ben, vous voyez, cet homme qui va au-devant du danger, parce qu'on savait qu'à ce moment-là, effectivement, il prenait quand même quelques risques personnels, la situation n'était pas sous contrôle, et voilà, il va sur les lieux, et il a il a refait le 13 novembre au Bataclan. Il s'engage. C'est une manière effectivement de prendre sur soi la peur qui était palpable, et c'est effectivement une forme très, enfin, théoriquement impressionnante, et en tout cas très ancienne, assurément ancienne, de l'incarnation, c'est-à-dire de ce que c'est que le pouvoir, c'est-à-dire se tenir lieu du peuple rassemblé, se tenir au lieu même où les choses se passent, et en place d'une émotion collective, ce qui effectivement, comme vous le rappelez, n'a rien changé et nous pose aujourd'hui, nous laisse nus, c'est un nu devant effectivement le métier de chef d'État. C'est-à-dire est-ce qu'on peut encore l'exercer aujourd'hui? J'en suis pas du tout sûr. Et donc au fond, oui, c'est un moment. Mais c'est un moment qui ne change rien, parce que ce qu'on comprend, c'est un événement, au sens où un événement, c'est deux choses, historiquement. On reconnaît un événement au fait qu'il est immédiatement recouvert par un discours qui le nie comme événement. Donc ça, effectivement... On a bien vu qu'il y avait une masse de discours qui s'étaient engouffrés dans cette brèche de sidération. Et je vous suis très reconnaissant de dire, voilà, ça s'est passé le 7, 8, 9 janvier. Il y eut, effectivement, puisque la poétique même du livre, c'est quand même de nommer, dater et localiser. Donc, il y eut les morts du 7, la morte du 8, les morts du 9, et cela faisait système, et cela fait partie effectivement d'une stratégie d'assassinat politique. Et dès la semaine suivante, on dit « Je suis Charlie, les attentats de Charlie », et maintenant c'est terminé. C'est les attentats de Charlie, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que, je veux dire, le côté systématique de l'attaque coordonnée du 7, 8, 9 janvier est oublié. C'est ça qui faisait événement. Hein, c'est-à-dire, on commençait par des journalistes libéraux, on poursuivait par des musulmans apostats, on achevait par l'assassinat des juifs parce qu'ils étaient juifs, tout ça fait système, c'est ça qu'on doit regarder en face, c'est ça qui fait événement, on ne le regarde plus en face en disant simplement attentat de Charlie. Donc c'est ça un événement. Un événement, c'est ce dont on parle et ce dont, en parlant, on oublie au fond l'événementialité. Et deuxièmement, pardon, je suis trop long, mais deuxièmement, ce qui fait événement aussi, c'est la compréhension immédiate que on a pris le train en marche, et que ça a commencé avant. C'est-à-dire, effectivement, là, en l'occurrence, l'événement du 11 janvier, c'est pas qu'il y ait 4 millions de personnes dans la rue, c'est que ces 4 millions de personnes dans la rue se demandent, ou devraient se demander, où ils étaient quand Mohamed Merah a assassiné des enfants juifs à Toulouse. Pourquoi ils n'étaient pas dans la rue? Et ça, tout le monde se pose la question, ou s'il ne se la pose pas, devrait se la poser. Et dans mon travail d'historien, je veux dire, il y a un ami historien, Étienne Anaïm, avec qui j'ai fait, petite incise, un séminaire sur... mon dernier livre qui s'appelle « La trace et l'aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e, 16e siècle », donc qui est la partie, je dirais, érudite et austère de mon travail, un gros livre d'histoire médiévale, mais un gros livre où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de références, beaucoup de... Voilà. Il a compris, et ça m'a beaucoup touché, qu'à un moment clé du livre, un des passages est titré d'une phrase de Mathieu Riboulet dans « Entre les deux, il n'y a rien », qui est le livre, un un de ses plus grands livres qui paraît presque en même temps que Prendre l'Inde. Voilà. Et que ce n'est pas une affrêterie littéraire, c'est pas pour faire joli, c'est pas une exergue enjolivante, c'est véritablement, en fait, le sésame de mon travail d'historien, et il se trouve que c'est aussi une des clés de son travail d'écrivain, c'est la phrase « car ça commence toujours avant et il finit par manquer quelque chose ».« Car ça commence toujours avant et il finit par manquer quelque chose ». Voilà. Au moment où on comprend que c'est ça l'histoire, on comprend que en fait, on vient de le comprendre, mais que ça a commencé avant, et on comprend aussi qu'il manque quelque chose.
Ce que vous rappelez sur l'idée qu'effectivement, on a oublié que c'était un système, et qu'on appelle maintenant ça les attentats Charlie, me renvoie à deux réflexions, en fait, que je voudrais vous soumettre. D'une part, et c'est ce qu'on comprend en écoutant Prendre date, c'est l'incroyable puissance de la mise en scène qui a eu lieu. La dramaturgie des faits est absolument hallucinante. Et cette mise en scène nous échappe. Nous l'avons subie, nous avons été les jouets de cette mise en scène, de cette dramaturgie. Et je reviens à mon idée d'incarnation qui, pour moi, est dans un état déficitaire absolu. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous avez parlé de la fonction auteur chez Michel Foucault, qui réassignait l'auteur à sa place de signataire. Cette réflexion découlait de ce que faisaient les troubadours qui, eux, se relayaient pour écrire des textes. Et vous avez évoqué le fait qu'aujourd'hui, on revenait à une sorte de communisme littéraire, c'est-à-dire que, de nouveau, on quittait la fonction auteur pour une prise en charge collective dans des relais différents, sur Internet ou ailleurs, d'un récit ou de plusieurs récits. Moi, il me semble que au théâtre, il n'y a plus de mise en scène. Il y a un reflux de la mise en scène, voire même sans doute une disparition de la mise en scène. Et je suis en train de me demander si justement ce déficit ou cette perte d'incarnation, cette impossibilité d'incarnation, n'est pas la conséquence aussi de cette perte de mise en scène et du fait que maintenant la mise en scène, elle se déroule hors de notre portée, hors de notre volonté, et que nous n'avons plus la main dessus, je dis nous, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, et aussi bien à l'échelle du pays, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un État. La mise en scène aujourd'hui, elle appartient sans doute effectivement à des groupes terroristes, ou à des fous de Dieu, ou des gens comme ça.
Eh oui. Non, c'est très... J'entends ce que vous dites. C'est une dimension, en fait, de ce problème assez... une dimension assez vertigineuse. Ça intéressait beaucoup Mathieu Riboulet. Le fait que nous n'étions plus, au fond, les scénaristes de l'histoire que l'on jouait et qui nous jouait. Voilà. Qu'il y avait des fonctions scénarisatrices, au fond, qui étaient... voilà ce que je cherche à travailler en ce moment dans mes cours. Là, justement, c'est très, très troublant ce que vous dites, parce que j'ai fait des cours sur les fictions politiques, et puis là, je fais un cours là, en ce moment sur ce que Yves Citon, dans Mythocratie, appelle la fonction scénarisatrice des histoires. C'est-à-dire qu'en fait, on se laisse scénariser par les histoires qu'on nous raconte. Et donc, une histoire... la puissance, disons, la mythocratie au sens propre, c'est-à-dire le fait de gouverner en racontant des histoires, c'est pas simplement le storytelling, je vais vous en raconter une bien bonne, ou je vais vous manipuler avec des narrations entraînantes. C'est que fondamentalement, ça veut dire qu'on conduit les conduites libres avec l'histoire qu'on raconte. Et donc, il y a une sorte de mise en scène cachée. Bon. Nous avons vécu, effectivement, une série noire, comme le dit Mathieu Pott-Bonneville, de Game of Thrones, c'est-à-dire voilà, la contemporanéité entre la mise en scène des décapitations, il en parle un petit peu dans le texte, Mathieu Riboulet, dans Prendre date. Les décapitations fictives dans Game of Thrones et les décapitations également mises en scène par cette sorte de Hollywood de l'horreur par Daesh, qu'a étudié Jean-Louis Comolli, historien et philosophe du cinéma. Il y a là une sorte de face-à-face effrayant qui fait que, oui, à ce moment-là, on est joué par une mise en scène qui se décide ailleurs. On pourrait dire les choses autrement du point de vue du terrorisme, mais ça c'est vrai. J'allais dire depuis, vous citiez Mallarmé. Sartre dit de Mallarmé qu'il incarne le terrorisme de la politesse. C'est-à-dire que sa poésie n'est pas pour rien contemporaine des attentats terroristes, anarchistes. Et il y a quelque chose dans la poésie de Mallarmé et dans ses tombeaux qui a à voir avec la bombe anarchiste. Pourquoi ? Parce que cette contemporanéité entre cette première vague anarchiste de la fin du XIXe siècle et la crise symboliste du réel dit quelque chose d'essentiel qui vaut encore un siècle plus tard, pour nous aujourd'hui, c'est que à quoi attente l'attentat ? Il attente à notre capacité à nous rendre maître et maîtresse du cours de notre vie. C'est-à-dire, nous n'en sommes plus les scénaristes. C'est plus nous qui écrivons la mise en scène. On est des figurants. Voilà. Donc, François Hollande, comme tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que il y a un attentat, un autre, on sait est-ce que c'est lié, c'est pas lié, on sait pas, on court d'un lieu à un autre en se disant j'espère que c'est pas Beyrouth, parce que on l'a vu 30 fois, hein. On fait un attentat ici, mais qui est l'attentat 1, hein, comme dans 24, hein, qui permet à tout le monde de se rassembler, et là, l'attaque. Bon. Et donc quand on se rassemble, mais dès le 7 janvier, tout le monde pense à ça. Moi, j'avais ce que on raconte aussi dans le livre, c'est que moi, j'y vais, évidemment, mon voisin, malheureusement, j'habite pas très loin de la République, avec mes filles, qui sont toutes petites, et elles comprennent pas. Elles disent, mais on va où ? On va se faire tuer ? C'est quoi l'idée ? C'est-à-dire ce que Georges Didier Huberman appelle le peuple exposé, peuple en armes, peuple en larmes. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que se rassembler, c'est se rendre vulnérable. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais l'histoire qu'on racontera plus tard du terrorisme et aussi l'histoire des possibles, comme toute histoire, c'est-à-dire qu'il y a ce qui a eu lieu, il y a ce qui aurait pu avoir lieu, ce qui a raté, ce qui a été déjoué, etc. Ça, c'était le projet, au fond, d'écriture du livre, c'est-à-dire être au plus près de notre incompréhension de ce qui est en train de se passer. On dit qu'il y a 11 morts à Charlie Hebdo, on n'a pas les noms, on ne dit pas les noms tant qu'on ne connaît pas les noms. Il y a deux terroristes, on apprendra le lendemain, qui s'appellent les frères Kouachi. Mais tant qu'on est au 7 janvier, qu'on raconte avec Mathieu Riboulet le 7 janvier, on ne dit pas les noms des gens qu'on apprendra quelques heures plus tard. Donc, on essaye d'être au plus près de notre incompréhension de ce qui se passe. Et vous savez que c'est très difficile, que ça demande un effort. Ça, comme historien, ça m'a intéressé.
Quel effort ? Pourquoi un effort ?
Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Parce qu'on sait effectivement maintenant que effectivement Koulibaly était lié aux frères Kouachi, etc. Et donc on sait que tout ça a été lié, mais au moment où on le vit, on le craint, mais on ne le sait pas. Et donc, quand est-ce qu'on a appris que les frères Kouachi étaient les frères Kouachi, c'est-à-dire quel jour, le 7, le 8, le 9, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, en mars, au moment où on écrivait, je ne m'en souvenais déjà plus. Parce qu'évidemment, le souvenir a commencé à recouvrir. Donc, je passais mon temps sur Internet. À essayer de voir les fils d'actualité. C'est-à-dire l'archivage des fils d'actualité. À quelle heure ça arrivait pour essayer d'être au plus proche de cette chronique, puisque ce qu'il y a de singulier dans ce livre, au fond, c'est son inscription temporelle très paradoxale. Il n'est ni à chaud ni à froid. Il n'est ni sur le moment, ni sur le bureau, où on étale les témoignages et où on commence à comprendre. Il est dans la zone dangereuse.
Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé sur la nature de ce texte écrit à deux, et c'est quelque chose que vous avez d'une certaine manière induit en prenant la parole au début, quand vous avez dit j'aimerais voir et savoir avec vous si ce livre aujourd'hui ne réveille que des souvenirs, auquel cas j'en serais très heureux. Le fait est que c'est bien plus que des souvenirs qu'il réveille, et donc vous n'avez pas de raison d'être heureux, je crois. Et tout à coup je me suis dit, voilà, ce texte est un texte quasiment sacrificiel, c'est-à-dire qu'en fait le jour où sa pertinence s'éteindra, il faut le souhaiter. Donc on doit souhaiter à ce texte de ne plus avoir aucune pertinence et presque de ne plus être lu d'une certaine manière, si je radicalise la chose. Je crois ça avec ce que vous venez de dire sur la scénarisation dont nous sommes les jouets. Et je me suis demandé si on répare une perte par une perte, d'une certaine manière, auquel cas on rejoindrait ici une sorte de loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui nous ramène à l'ère tragique, où effectivement les lois, ce n'étaient pas les humains qui les faisaient, c'était les dieux, ce qui est sans doute ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui, sans doute, et c'est pour cela peut-être que le livre posthume de Mathieu Riboulet s'appelle « Les portes de Thèbes ». Et qu'il plonge, enfin, il rappelle effectivement que voilà, l'année 2015 en Syrie, parce qu'il parle de ça aussi, se déroule sur une scène mythologique très ancienne. Et alors là, effectivement, c'est... on est dans le théâtre de Brecht, voilà, qui a construit Thèbes aux sept portes. Et vous avez raison, c'est proprement la tragédie, c'est ce qui la rend vraiment, au fond, aujourd'hui, active et parfaitement compréhensible. Parfaitement compréhensible. Je pense que au théâtre... il y a là, enfin, on est à un moment, alors je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire, vous qui savez mieux, une culture bien plus complète de la mise en scène, de l'histoire théâtrale, etc., qu'il n'y a que des moments qui, enfin voilà, que la tragédie est toujours recevable, que la tragédie, mais moi il me semble aujourd'hui que c'est particulièrement évident. Voilà. Que ça nous concerne au premier chef, qu'on n'a pas besoin au fond de faire des grands efforts d'actualisation, qu'on n'a pas besoin de faire des œillades un peu appuyées, hein, vous voyez. Bien sûr, nous y sommes, quoi, voilà, nous y sommes. Et donc, ça pose cette question qui, effectivement, vous inquiète, je sais bien, de la mise en scène.
Il est dit à un moment donné dans le texte, je sais depuis longtemps que la faillite est l'horizon du monde. Mais j'ai été troublée parce que j'ai entendu deux tensions, moi, dans ce prendre date. Cette tension-là, qui est que la faillite est l'horizon du monde, que effectivement les mots sont lestés du poids écrasant de l'histoire sans fin. Et j'ai entendu le mot final qui est « réparer les vivants », qui vient de chez Tchekhov, « enterrer les morts, réparer les vivants ». Et j'ai senti presque deux postures ou deux inclinaisons par rapport à ce qui s'était passé. Je ne sais pas laquelle appartient à qui, mais comme si l'un, avec ce qui s'est passé, enterrait d'une certaine manière définitivement ce qui a été et ne sera plus, et comme si l'autre espérait quand même encore. Continuer à espérer.
Oui.
Je pense que vous êtes celui qui espère.
C'est pas exclu. Et d'ailleurs, effectivement, le dispositif, encore une fois, du livre est très simple. C'est que deux personnes successivement disent « je » et « nous », mais que voilà, le livre est co-signé, mais chacun a pris en charge une journée. Et cette prise en charge, je me souviens très bien comment ça se passait, quoi. C'est que on s'est très peu parlé. Bon, il se trouve que le 7 janvier, chacun se souvient du moment où il est, ce qu'il faisait quand il a appris, la première fin, les premières alertes. De ce qu'on appelait alors la fusillade à Charlie Hebdo, et puis ensuite la journée a été longue, on a appelé des amis, etc. Mathieu était un ami très très cher, mais que je ne voyais pas tant que ça. C'est pas un copain avec qui j'allais boire des coups. On se voyait régulièrement, de manière presque rituelle, à la grâce, chez les uns, chez les autres, il y avait un attachement très 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 fort et très puissant, mais c'est pas, on se téléphonait pas trois fois par semaine pour se donner des nouvelles. Et il se trouve que effectivement, pour des raisons qui sont des raisons liées, à Verdier, à la grâce, à ce moment où on se retrouve et où on se rend compte que pourquoi on se retrouvait, pour se compter. On se compte, c'est-à-dire au fond, qui est la question du livre aussi, sur qui on peut compter. On va se compter, ça veut dire voir ceux qui sont là et ceux qui manquent. Et puis, ça peut être utile à un moment donné. Et c'est comme si je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était, dans la clandestinité, on appelle ça une structure dormante. C'est-à-dire que quand les choses arrivent, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et moi, je ne le savais pas, mais j'ai appelé Mathieu. Et on s'est appelé souvent. Et puis, à un moment, ça nous a paru nécessaire de faire un livre ensemble. Et puis, est arrivé ce dispositif. Tu fais une journée, et puis ensuite, tu me l'envoies. Et puis, voilà. Et on s'en parlait très peu. C'est-à-dire que... on avait une semaine, en gros, un peu moins, pour faire une journée. Pendant ce temps-là, il y en avait un qui souffrait, l'autre soufflait. Moi, j'ai vécu une semaine sur deux. Et puis, pof, il y avait un mail. On ne se disait pas « Ah, super, merci, qu'est-ce que tu écris bien ?» On encaissait. Moi, j'ai retrouvé mes mails. Hein. On disait « merci, c'est à moi de jouer. J'essaie de t'envoyer la suite dans 15 jours. » ou 10 jours, ou une semaine. Voilà. On a assez peu échangé, en fait. Spontanément, les gens disent que c'est une correspondance. C'est pas faux. Il y a de ça. Mais où ça se stresse.
Les
deux. Voilà, c'est stress. Voilà, il y a un moment, il y en a un des deux qui dit « Mais tu as raison de dire que c'est une guerre civile. Tu disais guerre civile. Ben oui, je crois que... » Voilà. Mais on ne fait pas semblant d'être... Il y en a un qui a deux petites filles, l'autre qui vit entre Berlin et Paris. Voilà. Et ceux qui nous connaissent peuvent nous reconnaître et ceux qui ne nous connaissent pas n'ont aucun intérêt à savoir qui est qui. Voilà pourquoi beaucoup ont imaginé des dispositifs d'écriture très sophistiqués alors qu'il est très élémentaire. Évidemment, moi je suis aujourd'hui dans ce très singulier cette configuration très triste d'être le co-auteur survivant. Et donc la vie m'a mis du côté de la vie. Pour plein de raisons, d'ailleurs. Et donc, là encore, vendredi dernier, je l'écoutais. Et ce que, au fond, je ne souhaite pas que le lecteur fasse, je me disais, ah, ça c'est moi. Hein, mmh. Ça, c'est lui. Ça, c'était quand même vraiment lui. Moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Donc, oui, vous avez raison. Il y en a un qui désespère plus. C'est pas douteux. Mais il avait aussi des raisons personnelles. Et puis, je crois que ces deux se retrouvent dans le tout dernier mot du livre, dont tout est à refaire, dont on peinerait au fond à dire s'il est une parole d'espoir ou de désespoir. Là, pour le coup, c'est vraiment les deux.
Je voudrais terminer par ça, en vous écoutant parler. Je reviens à Mallarmé et à ce poème sur la mort de son fils Anatole. Et il y a une phrase dans le texte de Mallarmé, dans les fragments que je n'ai jamais réussi à oublier. Pour le coup, c'est bizarrement formulé, mais c'est vrai. Il dit à un moment donné, « Ton futur qui s'est réfugié en moi devient ma pureté à travers vie à laquelle je ne toucherai pas. » Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, à la fois dans ce que vous avez tous les deux fomenté par rapport à cette période de janvier 2015 et entre vous et Mathieu Riboulet. Il y a quelque chose de ce mouvement-là, de cette dynamique-là, d'un futur qui se serait réfugié en vous et qui serait devenu cette pureté à laquelle vous ne toucherez plus.
J'espère, oui. Oui, c'est très beau, je vous remercie.
Mais ça vous place à un drôle d'endroit.
Oui,
c'est très... responsabilité, la mort de votre co-auteur.
Oui, c'est... ce sont de troublants hasards objectifs, parce que le livre « Les portes de Thèbes » éclat de l'année 15 paraît en même temps que un petit livre qui le rassure et le protège qui s'appelle Compagnie de Mathieu Riboulet, où nous sommes quelques-uns à avoir écrit pour lui, voilà. Et moi, j'ai écrit, pas pour lui, en fait, mais j'ai écrit avec lui sur une des dernières choses qu'on a vues ensemble, c'est-à-dire la Pietà Rondanini à Milan, qui est cette sculpture inachevée de Michel-Ange. Et j'en fais une lecture mallarméenne, justement. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour la raison que vous dites, mais je ne le savais pas.
Qu'est-ce qu'il vaut mieux défendre, Patrick Boucheron, les hommes ou les statues ?
Alors là, c'est lui, ça. Oui. Ça, c'est lui, sa rage. Quand il y avait les attentats, on appelait ça aussi comme ça, contre les Bouddhas de Banyan. Il avait eu cette colère-là, et effectivement, je pense pas à la statue de Michel-Ange, mais les hommes, évidemment, même si justement ce qui est beau dans la couverture des portes de Thèbes, c'est que le bandeau représente en fait des soldats qui. En Irak, je crois, sont sous des bâches dans une tempête de sable, c'est ce qu'on comprend. Puis ils se protègent et en fait, ils sont dans cette justement dans cette comment dire, de ce recroquevillement un peu douloureux qui est celui de la Pietà Rondanini de Michel-Ange, et ils deviennent véritablement, en se protégeant de ce vent de mort, des statues. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout de suite si c'est de l'art contemporain ou si c'est... voilà. Et donc, oui, c'est cette question de la... des hommes qui deviennent des statues, parce que si on veut parler de mythologie... au fond, on a beaucoup parlé de sidération, qui était le mot de passe, voilà, le mot faible de l'année 15, pour éviter le mot fort, qui est la méduse. C'est-à-dire qu'on a été médusé. C'est-à-dire que face au monstre, on était effectivement, on risquait d'être rigide et surtout cassant comme des statues. Et ça, c'était le pour lui, c'est drôle, c'est un, parce que évidemment, voilà, c'est des histoires d'amitié. Donc les histoires d'amitié, c'est des histoires où on se met à rire du plus plus atroce, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on écrivait, justement, on a oublié, quoi. Mais ça continuait. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a eu l'attentat du Bardo à Tunis, et puis il y a eu un attentat à Sanaa. Tout le monde l'a oublié. C'est 2 mois plus tard où là, il y a, je crois, il y a 130 morts, quoi. Et l'écart de retentissement mondial. Enfin, là, on l'a complètement oublié. Hein. Oui. Il faut vraiment le recours d'Internet pour dire « Ah oui, tiens, c'était 2 mois plus tard. Oui. » Mais évidemment, c'était au Yémen, quoi. Et puis, petite piqûre de rappel avec les Bouddhas de Banyan, où là, quand même, on était là. Là, ça nous a vraiment mis indignés, quoi. Et cette indignation a beaucoup fait rire Mathieu Riboulet. Et là encore, c'est une histoire de mise en scène. C'est-à-dire qu'on voit bien que Daesh, là, ils étaient une sorte de surenchère. Ils disaient, bon, bah, ok, là on en a tué 130 au Yémen, tout le monde s'en fout. Bon, on va dégommer une statue.
C'est terrible. Terrible. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Patrick.